Chapitre 2, verset 3 de la première épître de Jean. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Ah, voilà quelque chose qui n'est pas isolé dans le Nouveau Testament. Cette pensée-là a déjà été exprimée dans l'évangile de Jean notamment. Et elle se trouve aussi exprimée en d'autres points. Mais elle est très importante. Nous avons trop souvent, nous-mêmes, l'habitude de considérer que nous sommes chrétiens et que nous sommes dans le Seigneur, que nous connaissons le Seigneur, que nous sommes en communion par les émotions qui nous atteignent à certains moments, dans des réunions ou dans des moments de prière. Nous nous basons sur, en somme, l'apparition de certains moments d'émotion, d'exaltation peut-être, n'est-ce pas? Ou alors, si dans la réunion, il y a eu un certain mouvement, un certain bruit même, n'est-ce pas? Nous allons dire quel bon culte, l'esprit était là, n'est-ce pas? Et chers amis, nous ne tenons aucun compte pour cela de la parole. Ça, chers amis, il faut bien le dire, c'est le grand risque d'erreur. De prendre l'émotion ou l'exaltation pour la communion. De prendre en quelque sorte l'ombre pour la réalité. C'est un grand danger. C'est pourquoi nous avons tant besoin de revenir à ces textes précis. C'est, je le répète, l'apôtre qui a eu vocation à connaître l'amour de Dieu et tout est dans l'amour. Tout de l'évangile est dans l'amour. Tout de la vie chrétienne est dans l'amour. L'amour de Dieu, agapé. C'est précisément cet apôtre, donc, qui peut nous traduire la pensée de Christ concernant la position du chrétien. Si nous gardons nos commandements, Jean a écrit cet épître d'une manière générale pour fortifier, pour encourager, pour faire apparaître la joie, une joie telle que la sienne. Mais, bien sûr, il va le faire selon la vérité. Ne lui demandons pas, n'est-ce pas, de nous apporter l'illusion de la joie. Mais il va nous apporter la source même de la joie. Il dit aux chrétiens, avez-vous tant besoin de vous scruter? Est-il nécessaire que vous soyez à certains moments anxieux? Lorsque Dieu n'est pas sensible à votre cœur, que même à certains moments vous ne savez pas si vous avez votre salut ou si vous ne l'avez pas, quand Dieu paraît s'être éloigné de vous, faut-il donc que vous restiez perplexe sur le point de savoir si vous êtes dans la communion ou si vous n'êtes pas dans la communion, si vous êtes vraiment dans votre position de disciples de Christ, ou si vous n'y êtes pas, ou si vous êtes à côté, allez-vous vous baser sur quelques émotions, sur quelques signes extérieurs ou signes passagers en vous, n'est-ce pas? Peut-être un certain enthousiasme qui va vous occuper pendant un moment, n'est-ce pas? Pour savoir si vous êtes vraiment le disciple accompli, le disciple que Jésus qui plaît à Dieu, non pas. Vous allez servir du vrai signe, du vrai test. Abandonnez donc toute perplexité, abandonnez aussi ces introspections pénibles et sans issue, ces recherches intérieures qui ne sont pas les bonnes. Il y a des recherches intérieures qui sont bonnes, la recherche, n'est-ce pas, du péché, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais quant à s'analyser constamment, n'est-ce pas, il y a des gens qui s'analysent beaucoup, eh bien, cessez cela. Voici un moyen sûr et simple de faire le point, de savoir où vous en êtes. Si vous gardez ses commandements, vous l'avez connu, vous êtes en sa connaissance. Si nous gardons ses commandements, par là, par le fait que nous gardons ses commandements, nous savons que nous l'avons connu. Voilà le vrai test. C'est d'une objectivité magnifique, n'est-ce pas ? Et il n'y a pas toutes ces subjectivités que nous introduisons. Nous introduisons des subjectivités tout à fait étrangères, je vous dis, n'est-ce pas ? Un mouvement, on s'est senti bien, il y a eu une joie générale, oh, le Seigneur était là, le Seigneur était avec nous. Et puis, bien sûr, n'est-ce pas ? À ce moment-là, nous disons, oh, nous sommes vraiment avec le Seigneur est là, il est avec nous, il est en nous. Mais ce n'est pas le vrai test. Si nous gardons nos commandements, il s'agit par conséquent d'examiner notre vie chrétienne à la lumière de la parole de Dieu. C'est le moyen infaillible, par conséquent, d'être au clair, chacun, n'est-ce pas, pour soi, d'être au clair sur sa propre situation. Si nous gardons ces commandements, évidemment, n'est-ce pas, il faut que nous soyons à même de reconnaître que nous gardons ou que nous ne gardons pas ces commandements. Nous allons voir ce que cela veut dire tout à l'heure. Mais là, n'est-ce pas, il faut quand même pouvoir se placer devant ce test, devant ce moyen, n'est-ce pas, si nous gardons ces commandements. Est-ce que je garde ces commandements? Ah, voilà, c'est peut-être une question à laquelle il va m'être assez difficile de répondre. Eh bien, si je veux avoir la bonne réponse, l'Épître d'ailleurs va nous renseigner dans la suite. Mais disons tout de suite qu'il me faudra évidemment avoir recours à la prière, à celui qui sonde les cœurs et les reins. Il va falloir avoir recours à ma conscience. C'est ma conscience, la conscience du chrétien qui doit être éclairée mieux que n'importe quel autre. Et il faudra sans faiblesse que je m'interroge dans la prière. Si je ne le fais pas, je ne saurai pas si je garde les commandements, je pourrais m'illusionner moi-même, et par conséquent, je ne saurai pas si je suis dans la communion ou si je n'y suis pas. C'est par ce moyen-là, n'est-ce pas, nous voudrions souvent, n'est-ce pas, que les choses nous soient dites sans aucun effort de foi. Je ne parle pas d'un effort de l'homme, mais d'un effort de foi. Nous sommes paresseux à mettre notre foi en mouvement, à l'œuvre, et pourtant c'est elle. Et nous voudrions que les choses nous soient apportées toutes prêtes de l'extérieur. Nous voudrions bien que l'Esprit nous dise, mais oui, tu es enfant de Dieu, mais ça va très bien, tu es enfant de Dieu. Nous allons voir que l'Esprit peut dire cela. L'Esprit va le dire, mais l'Esprit ne va le dire qu'en rapport avec cela, l'observation des commandements. C'est dans le cas où les commandements sont véritablement observés dans une vie, hein, que l'Esprit va pouvoir attester que nous sommes enfants de Dieu. Tout ça, c'est lié. Nous ne l'avons pas connu. Quelle est cette connaissance de Jésus-Christ ou cette connaissance de Dieu? C'est une connaissance qui s'empare de l'être tout entier. Les facultés de l'Esprit, telles que l'intelligence courante, la mémoire, ont peu de place dans cette connaissance-là. Il s'agit d'une connaissance qui a gagné l'être entier. C'est pourquoi, dans le grec, c'est au temps parfait, et le temps parfait est un passé, mais qui implique un présent. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une connaissance qui a gagné l'être entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. N'oublions jamais cela, l'esprit, l'âme et le corps. Le chrétien ne reste pas limité à une connaissance intellectuelle, à un savoir, à une information qu'il aurait conservée dans sa mémoire. Il y a là une connaissance intime, c'est-à-dire une relation intime avec Jésus-Christ, et avec Dieu le Père, qui sont tous deux esprits avec un grand T. Donc c'est une expérience du cœur. qui s'étend à l'être entier. C'est bien pourquoi dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, et vous voyez l'unité de l'Écriture, il était recommandé d'aimer Dieu de tout son cœur l'esprit, de toute son âme, l'âme, de toute sa pensée, de toute sa force, l'être entier était là-dedans. Bah, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, était l'aimer avec tout ce qui peut s'employer dans l'être humain. Donc, c'est une expérience du cœur qui fait pénétrer le chrétien au centre du mystère de Christ. Cela, je l'ai déjà dit, mais je le répète, est tellement important, ce mystère de Christ dont l'Écriture nous parle, le chrétien pénètre donc au centre de ce mystère en ressentant l'amour dont il a été l'objet de la part de Dieu. Il vit et il réalise ce qu'est Jésus-Christ et ce que Dieu est. Son être est entré dans un engagement profond, dans les profondeurs de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul. Ainsi, n'est-ce pas, connaître, ce n'est pas donc avoir possédé un savoir acquis par une longue étude, ce n'est pas davantage une mystique, une dévotion mystique et émotive. Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, c'est vivre avec lui et par lui dans une union intime et mystérieuse. Ce que Jésus a déclaré lui-même dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et versets 20 et 21. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voyez-vous, ça c'est central, ça, dans l'Écriture. Chers amis, je suis désolé, voyez-vous, n'est-ce pas, que l'on s'intéresse énormément à ce qui est périphérique dans la vie chrétienne. Et ce qui est le centre, le cœur, n'est-ce pas, on le néglige. On va beaucoup s'occuper des dons, en parler beaucoup, des dons du Saint-Esprit. Mais les dons du Saint-Esprit sont des voies, des moyens. Ça, c'est la réalité qui doit se présenter, qui doit s'être installé à l'intérieur de notre être, n'est-ce pas? C'est tout différent, ça c'est la réalité, ça c'est le résultat acquis, tandis que les dons spirituels seront des voies. Et c'est pourquoi dans son chapitre 13 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dira, mais moi je vais vous indiquer une voie par excellence. Et que parle-t-il? Quelle est cette voie? De quoi parle-t-il? De l'amour, n'est-ce pas? Et il nous dit, vous pourriez avoir tous les dons spirituels, même le don de foi, un don de foi extraordinaire, à déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Nous aurions, en somme, si nous parlons des dons, nous nous basons sur les dons, nous restons, n'est-ce pas, axés sur les dons, sans qu'il y ait rien au centre. Alors, n'est-ce pas, nous avons la périphérie et puis le creux, le vide au centre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, rien du tout. Alors, n'est-ce pas, les dons spirituels, c'est très bien, c'est un acquis ou une remise en valeur, une remise en foi que le mouvement de Pentecôte a réalisé. C'est très bien, mais laissons la parole dans son équilibre. Ne faisons pas, n'est-ce pas, des dons spirituels, une doctrine. La doctrine d'une nouvelle église, où nous allons faire une secte. Nous allons tomber dans le travers de la secte, qui déforme, qui hypertrophie une partie de la parole. C'est bien de la parole, mais elle est hypertrophiée, elle est détachée du reste, elle ne signifie plus rien. Mais, mes amis, on peut prononcer des dons spirituels, quantité de dons spirituels, si l'on ne garde pas les commandements du Seigneur dans sa vie à soi, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a rien du tout, on n'est pas en communion. Alors, que faire de ces dons spirituels? Comment les considérer? Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. Et l'amour, nous l'avons vu dans ce passage, c'est précisément de garder la parole du Seigneur, de garder ses commandements. Alors, moi, je ne veux pas, n'est-ce pas, entendre poser un problème comme celui-ci, n'est-ce pas, oh, bah, oui, les dons spirituels, certes, ils s'exercent, ils sont là, les dons spirituels, les personnes qui les exercent, oh, bah, évidemment, elles sont loin d'être sanctifiées, elles, oui, il y a bien des choses à redire dans leur conduite, évidemment, déplorent d'elles ceci, cela, elles chuchotent, elles parlent, elles jugent, elles prononcent des paroles, empreinte de nervosité, d'agacement, ne sont pas charitables, tout ça. Mais enfin, ça viendra par le... Elles ont les dons spirituels. Qu'est-ce que c'est que ce problème-là? Ah, je n'en veux pas. Personnellement, je n'en veux pas. Et c'est pas ça, la vraie Pentecôte. Et c'est pas ça, le plein évangile. N'appelons pas ça le plein évangile. Moi, j'appelle ça une fausse Pentecôte. Tout simplement. Les dons spirituels viendront comme des voies, ce sont des voies, des moyens par lesquels Dieu va édifier l'Église, par lesquels Dieu va permettre peut-être aux chrétiens lui aussi de s'édifier lui-même, par lesquels il va parler à d'autres, dans le rassemblement chrétien. Mais ce sont des voies, ce sont des moyens. Ce n'est pas la réalité, ce ne sont pas eux qui sont la réalité centrale. La réalité centrale, c'est la communion avec le Seigneur. Et Jésus n'a jamais enseigné autre chose que ça. Et cette communion est elle-même dépendante de l'observation des commandements du Seigneur. Nous allons préciser ces choses, mais, n'est-ce pas, mettons bien tout au point. Vous savez, si nous n'acceptons pas de réformer en nous, n'est-ce pas, mauvaise habitude de considérer les choses, doctrine plus ou moins faussée par certaines habitudes acquises, n'est-ce pas, voyez-vous, ou par certaines déficiences dans notre connaissance, eh bien, nous ferons un travail très mauvais, nous nuisons à nous-mêmes et nous déplaisons au Seigneur. Le centre, c'est cela, garder les commandements. Croyez-vous que Jean n'ait pas été un homme charismatique? Ce mot finit par un peu m'agacer, je vous dirais. Bon, mais enfin, mais oui, parce qu'on parle de foi charismatique, de chrétien charismatique. Alors moi, je vais bientôt dire de chrétien périphérique, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais enfin, puisque ce mot vient de charismata, les dons spirituels, enfin, qui est bien dans l'Écriture, oui. Mais je vais vous dire, croyez-vous que Jean n'ait pas été lui le charismatique par excellence? Ne croyez-vous pas qu'il ait eu les dons les plus éminents? Ben, je vais vous dire qu'il a eu le don le plus éminent qui soit jamais dans l'Église. Il a été gardé par le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, un temps très long, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. Il a eu la vision du Christ glorifié. Et le Christ glorifié l'a conduit dans une révélation qui est l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Il a vu toutes ces choses. Il a même entendu des choses qu'il n'a pas eu le droit de transcrire. Les tonnerres. Ah, ça, ne le dis pas. Vous savez, n'est-ce pas, les dons, il les a connus, lui, Jean, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'était un homme de l'amour, un disciple de l'amour, et précisément, Jésus en a fait le plus comblé en matière de révélation, de dons, n'est-ce pas? Et il a été transporté en esprit dans la cité de Dieu, il a contemplé la Jérusalem céleste, etc. Moi je dis que c'est celui qui a été le plus comblé en matière de dons spirituels, mais c'est l'apôtre de l'amour. Par conséquent, ne faisons pas d'opposition entre les dons spirituels et l'enseignement central, principal, essentiel de l'Écriture concernant la communion qui suppose elle-même l'observation des commandements de Dieu. Mettons toutes choses à leur place. Garder ces commandements en tant que fruit bien entendu, de la foi, en tant qu'œuvre de la foi. Je dis cela parce que certains ont un peu laissé planer un reproche à l'adresse de cet épître ou de son auteur. On a dit, n'est-ce pas, ah mais ça, hein, c'est une espèce de retour au légalisme. Garder les ordonnances de la loi et les commandements, ça c'était bon du temps de la loi de Moïse, n'est-ce pas? Et puis on sait très bien que la loi jouait un certain rôle, elle était nécessaire en son temps, n'est-ce pas? Mais elle n'était pas un moyen de grâce, pas du tout un moyen de grâce. La grâce est venue avec Jésus-Christ. Alors, personne n'a jamais pu observer pleinement la loi de Moïse. Personne ne l'a fait, n'est-ce pas? Et par conséquent, tous les hommes ont été convaincus de péché. Bon, alors ici, n'est-ce pas, est-ce que Jean ne nous ramène pas à ce légalisme, à la loi qui a été impuissante? L'épître aux Hébreux dit qu'elle a été impuissante, mais elle n'était pas donnée pour ça. C'est pas que Dieu s'est trompé. La loi n'était pas le moyen qui pouvait transformer des hommes pécheurs en hommes de observateurs de la loi, en hommes qui soient les saints de l'Église. C'est la grâce qui le fait, ça. C'est pas la loi. La loi n'est pas supprimée, mais c'est la grâce qui amène les hommes à l'observation de la loi. Donc ici, n'accusons pas Jean de légalisme. C'est que nous n'aurions pas bien lu toute son épître. Là, ici, il n'a pas peur de donner un petit tour, un petit air de légalisme, n'est-ce pas, garder ses commandements. Bon, mais bien entendu, il sous-entend que cette observation des commandements, garder veut dire observer, cette observation sera le fruit de la foi, les œuvres de la foi, j'y reviendrai dans un instant. C'est bien la grâce de Dieu qui ordonne et qui donne une vie conforme à la volonté de Dieu, c'est la grâce, il n'y a pas de doute, c'est la grâce, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de prendre sa Bible et puis de dire, voyons, aujourd'hui, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, etc., n'est-ce pas? C'est la grâce qui le fera. Il y a, dans le passage que nous avons lu, une deuxième expression qui figure au verset 5, au commencement du verset 5, « Mais celui qui garde sa parole », une seconde expression, garder sa parole, qui est claire déjà. La première expression, garder ses commandements. Ce n'est plus garder ses commandements, c'est garder sa parole. Les commandements dont il s'agit sont donc l'ensemble de la parole de Christ. L'ensemble de la parole de Christ, reçue dans le cœur par l'esprit, connue dans son esprit et vécue par la foi. Il s'agit de cela, il n'y a là donc aucun légalisme. La pensée de Jean progresse donc déjà dans ce verset 5, celui qui garde sa parole, et c'est une expression que Jésus a employée lui-même. Au verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Là, il semble qu'il y ait tout simplement la négation, n'est-ce pas, du verset 3. Le verset 3 est en forme affirmative, le verset 4 est en forme négative, mais sur le même objet. Gardez ces commandements pour connaître, n'est-ce pas? Et là, celui qui dit « je l'ai connu », n'est-ce pas, je suis en communion, mais qui, effectivement, n'est-ce pas, dans sa vie courante, ne garde pas les commandements de Christ, ben, celui-là, c'est un menteur, et par conséquent, la vérité n'est pas en lui, il ne marche pas dans la vérité, il ne vit pas la vérité. Il vit, n'est-ce pas, une vie d'illusion. Il n'est pas question, là, de faire peur, n'est-ce pas? Celui qui dit « je ne l'ai pas connu » et qui ne garde pas ses commandements, il n'est pas question de faire peur, il est question de mettre les choses très au point, nettement, n'est-ce pas? L'affirmation et la négation. Le Seigneur Jésus a fait cela. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Voyez-vous, l'affirmation et la négation. Et nous arrivons à cette pensée qu'exprimait dans Matthieu 23 le Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il parlait aux pharisiens. Des pharisiens, il parlait des pharisiens. Il a pu se fasse exprimer ainsi, ils disent et ne font pas. Il y a un désaccord entre ce qu'ils disent être, ce qu'ils disent même qu'il faut faire, et ce qu'ils font, un désaccord. Se séparer de la parole de Christ, en fait, se séparer de la parole, ne pas la garder, c'est s'en séparer. Se séparer de la parole de Christ, en fait, dans le fait journalier de notre vie, eh bien, c'est se séparer de Christ, de la personne de Christ. Voilà, n'est-ce pas? C'est ne pas le connaître. Prétendre le connaître et ne pas garder sa parole, n'est-ce pas? Eh bien, c'est mentir. Par conséquent, si on se sépare de la parole de Christ, en fait, je dis bien en fait, pas parce qu'on pourrait la garder en prétention, en dire, n'est-ce pas? Mais ne pas la garder en fait, il s'agit de la vivre, et si vraiment on ne la garde pas en fait, si on s'en sépare en fait, on se sépare de la personne de Christ. Voilà, n'est-ce pas, ce que très nettement nous exprime ici l'Épître. Alors, la position du chrétien, si, n'est-ce pas, le chrétien ne garde pas la parole, sa position offre une image fausse d'une réalité qu'il n'a pas en lui, n'est-ce pas? Il n'a pas la réalité en lui, il en offre une image qui nécessairement est fausse, est trompeuse. Verset 5. « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. » C'est toujours dans la même pensée, notez, mais l'apôtre progresse, l'apôtre veut éclairer. Il a commencé par une énonciation très simple. Si nous gardons des commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Seulement, ça demande à être éclairé, ça. Il n'est pas question, garder la parole, celui qui garde sa parole, il n'est pas question de préceptes isolés et rigides, dont le sens littéral seul serait retenu, comme cela se faisait du temps des pharisiens. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'un code. Hein, mes amis, je l'ai plusieurs fois dit ici, et je le redirai encore aujourd'hui. Si vous faites de votre Bible un code, voyons voir, est-ce que c'est permis ça ou c'est pas permis? Voyons, quel article, il faudrait savoir, quelle page, quel chapitre, quel livre, quel article, n'est-ce pas, comme on consulte un code ou un code, n'est-ce pas, que ce soit la loi, les règlements, etc., article L numéro tant ou R numéro tant, n'est-ce pas, 2856, bon, alors qu'est-ce qu'il dit cet article? Il dit cela, n'est-ce pas? Alors, savoir si c'est permis ou pas. Il y a des gens qui se disent, par exemple, tiens, est-ce qu'on peut fumer? On va chercher là-dedans s'il y a... Si c'est pas interdit, alors c'est permis. Tout ce qui n'est pas interdit est permis, n'est-ce pas, en général, dans le droit. Alors, ça, n'est-ce pas, c'est infiniment mauvais. Et pourtant, on rencontre encore cette manie-là. Mais c'est affreux, c'est tout. Il faut réformer complètement sa pensée. C'est pas ça, c'est pas un code, la Bible. C'est une pensée. La Bible, c'est une pensée de vie. Une pensée qui, si vous la... Vous la logez en vous, si vous la recevez en vous, recevoir la parole de Christ, n'est-ce pas, c'est ça, recevoir la pensée de Christ, eh bien, vous allez, n'est-ce pas, vivre selon cette pensée. Mais chercher, n'est-ce pas, à scruter la lettre d'un petit verset, et puis d'un autre, pour savoir si cela est permis ou est défendu, bon, c'est faire une œuvre vraiment tout à fait en dehors de ce qui nous est demandé. La parole de Christ est une révélation de tout ce qui concerne la vie nouvelle et qui est proposée à la foi. C'est la loi parfaite, c'est la loi royale qui apporte la vie du Christ se mettant à l'œuvre. Regardons Jean 8, versets 54 et 5. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, et que vous ne connaissez pas. » Oui, il y a des gens, n'est-ce pas, qui disaient et qui ne connaissaient pas. Pour moi, je le connais. Ça veut dire, n'est-ce pas, je suis en relation intime. Je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Christ nous dit, je garde sa parole. dans toute sa vie. Pourtant, il ne s'est jamais, n'est-ce pas, référé à quelque chose d'un système rigide, mais il avait la pensée, il suivait la volonté de son père, n'est-ce pas? Et la parole de son père, que ce soit la parole déjà écrite et qu'il observait, ou la parole que le père lui donnait sur le moment, il gardait la parole, il l'observait pleinement. Voilà ce qui nous est demandé. Et alors, il nous est dit que celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est-à-dire que celui qui garde la parole, donc qui fait comme Christ, qui gardait la parole de son Père, alors l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour que Dieu inspire, l'amour dont il remplit les cœurs de ses enfants, cet amour est parfait, ce qui veut dire il est accompli. Il est accompli, il est réalisé. Et cet amour se présente alors, c'est alors que cet amour se présente en sa parfaite réalité. Voilà ce qui veut dire l'amour est parfait, n'est-ce pas? L'amour est réalisé, comme on dit, un insecte parfait, un insecte adulte, absolument formé, tout est là, n'est-ce pas? Voilà, il n'y a plus à attendre d'évolution de cet animal, n'est-ce pas? Tout est là, il est parfait, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là, l'amour alors se présente dans sa totalité, dans sa réalité, hein? C'est ça qui est magnifique. Si l'on garde sa parole. Alors, par là, nous savons, par là, par cela, par le fait que nous gardons sa parole et que l'amour de Dieu est parfait en nous, par là, nous savons que nous sommes en lui, n'est-ce pas? C'est par là, donc, que nous savons que nous sommes dans la communion, dans un lien réel, que nous sommes alors protégés, portés, gardés par lui, et cela, nous allons le voir, effectivement. Nous allons voir que nous sommes gardés par lui et protégés, de toute manière. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ah, là, ça paraît simple, mais ça demande tout de même une certaine réflexion. Celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme Christ a marché lui-même. Mais l'idée que nous avons tout de suite en lisant ce verset, c'est de marcher en imitation de Jésus-Christ, imitation dont nous allons prendre le modèle dans la marche, c'est-à-dire dans la vie de Jésus alors qu'il était physiquement présent sur la terre. Hein? Nous avons cette idée-là. Ah ben, je vais consulter tous les évangiles, voir ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Et puis, je vais essayer de faire la même chose, n'est-ce pas? Ce serait déjà, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas l'idée qui est là. Ce n'est pas l'idée. Il y a, certes, Christ représente un certain passé. Ben, l'évangile nous rapporte un passé. Mais un passé qui a engendré une puissance, l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit, n'est-ce pas? Une puissance qui s'étend sur les siècles. L'évangile, n'est-ce pas, nous parle d'un passé, oui, de faits passés, qui ont engendré un Christ aujourd'hui glorifié, lequel a été mis à mort, lequel est vivant au siècle des siècles, lequel a été donné comme tête à l'Église, lequel est donné aussi pour faire son habitation demeurer dans la personne de chacun de ses disciples, en esprit, n'est-ce pas, et de vivre à pied d'œuvre dans son esprit. Alors, marcher comme il a marché lui-même, n'est-ce pas, malgré que nous trouvions là un passé, ça veut nous dire aussi vivre, n'est-ce pas, comme Christ veut, entend nous faire vivre. Jean, vous voyez, insiste beaucoup sur le rapprochement du dire et du faire. Celui qui dit, celui qui prétend être chrétien, celui qui se présente comme tel, ou simplement celui qui laisse penser aux autres qu'il est chrétien, parce qu'il est dans une assemblée chrétienne, parce qu'il parle de l'évangile volontiers, n'est-ce pas? Voyez-vous? Eh bien, celui-là, il a le dire. Mais il faudrait qu'il ait aussi la réalité chrétienne, n'est-ce pas? Dire et faire, ça fait deux choses, ils disent et ne font pas, mais là, n'est-ce pas, l'apôtre nous dit, celui qui a le dire, eh bien, il faut qu'il ait le faire aussi, il faut qu'il ait la réalité. Autrement, C'est un mensonge pour les autres, hein, et une séduction pour lui-même. Il arrive que des hommes puissent se séduire eux-mêmes, se disant ou se croyant chrétiens, et ça, chers amis, ça se trouve en je ne sais combien d'exemplaires dans la vie catholique, comme on l'appelle, n'est-ce pas, dans le catholicisme. Ça fait des gens qui s'appliquent toutes sortes de passages des épîtres, des écritures, n'est-ce pas, et puis qui... je voyais ça il y a quelque temps dans un journal, n'est-ce pas, un homme assez éminent qui parlait, qui est un grand catholique. Alors il parlait, nous avons la vie, nous avons ceci, nous avons cela. Et puis il est fourré tout le temps à l'opéra, au théâtre. Il est dans toutes les rencontres mondaines, n'est-ce pas. Il a même d'autres choses que je ne dis pas, n'est-ce pas. Ici, bon, et puis. Il dit, nous sommes catholiques, n'est-ce pas, chrétiens, nous avons la vie, nous avons... Hein, vous vous rendez compte, n'est-ce pas, comme tout cela sonne faux. Nous aurions beau être affirmer être sur le chemin du salut, n'est-ce pas, et vous savez que le chemin, c'est Christ. Nous aurions beau affirmer être sur le chemin du salut, si nous ne le suivions pas, ce serait porter en soi-même une illusion. Et nous retrouvons ici un principe bien connu de l'Écriture, la foi est inséparable des œuvres. Ah, la foi est inséparable des œuvres. La démonstration de Jacques n'est pas quelque chose de qui lui est particulier à lui, cet apôtre Jacques, hein, ça se trouve dans toute l'Écriture. Le principe est la foi est inséparable des œuvres, n'est-ce pas? Tout comme une... un arbre, n'est-ce pas, que voici, n'est-ce pas, que l'on voit hors de la terre, est inséparable de ses racines, n'est-ce pas. Et si on voyait un arbre comme ça, avec des belles feuilles, n'est-ce pas, eh bien, et que, en grattant la terre, on trouve rien en dessous, on... Comment ça se fait? C'est pas possible, ça. C'est absolument impossible, n'est-ce pas. Il viendrait peut-être d'être coupé quelque part et d'être planté là. Pour nous tromper. Mais, n'est-ce pas, si l'on voit cet arbre, n'est-ce pas, on sait, on ne voit pas les racines, elles sont sous la terre, mais on sait que les racines sont là. Eh bien, n'est-ce pas, nous pouvons faire une comparaison. Ici, dans les racines, nous mettons la foi qui est cachée, elle est cachée dans le cœur, la foi. Elle est cachée, et ce qu'on va voir ici, c'est l'arbre avec ses feuilles, ses fruits, n'est-ce pas, et ça, ce sont les œuvres de la foi, n'est-ce pas, comme l'arbre, la partie aérienne de l'arbre, et si vous voulez, n'est-ce pas, l'œuvre des racines, n'est-ce pas. Alors, voilà, n'est-ce pas, ce rapport qui, ça c'est un principe absolument immuable dans les Écritures, il n'y a pas à en discuter, n'est-ce pas, c'est l'unité de la foi et des œuvres, ça ne forme qu'un. La foi et les œuvres. Les œuvres sont le produit de la foi. Et si, par exemple, n'est-ce pas, on a coupé cet arbre, supposez qu'on ait coupé, n'est-ce pas, cet arbre. La plupart des arbres sont comme ça, n'est-ce pas, il reste une petite souche ici, mais on voit immédiatement des branches réapparaître. Hein. Sur le bord des routes, souvent, n'est-ce pas, on a coupé des platanes, là. Eh bien, on voit au bout de quelque temps, n'est-ce pas, une touffe, n'est-ce pas, réapparaître à chaque souche. Hein? Parce que les racines sont là et les racines ont besoin de s'exprimer en partie aérienne. Hein? La foi, c'est comme ça. Alors, Jacques dit, tu me dis que tu as la foi, toi? Eh bien, tu me dis que tu as des racines? Mais je vois rien par-dessus. Alors, montre-moi la foi sans les hommes. Moi, je ne sais pas ce que c'est que ça. J'ai jamais eu ça. La foi sans les hommes, ça n'existe pas. Et n'est-ce pas? Il a pleinement raison, n'est-ce pas? Pleinement raison. Alors, nous retrouvons ce principe. La foi inséparable des œuvres, toute vraie foi, nécessairement va se frayer un passage pour se manifester extérieurement par des œuvres. Enfin, alors, c'est là que nous aurons une marche pareille à celle du Christ. Enfin, le Christ avait la foi, ça s'appelle souvent fidélité, on traduit par fidélité, pistis ou pistos. On traduit par fidélité, n'est-ce pas? Mais il y a la foi de Dieu, la foi de Christ, ou la fidélité, si vous voulez, ça se rejoint. foi et fidélité, ça se tient très étroitement. Alors, cette foi ou cette fidélité de Dieu à la volonté de son Père, ça se traduisait par les œuvres. Ben, c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, je fais les œuvres que mon Père me dit. Ben, ça, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas ma relation intime avec Dieu, avec mon Père. Vous ne la voyez pas. Mais ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez voir, ce sont mes œuvres. Alors, croyez au moins à cause de ces œuvres. Si vous ne croyez pas que je suis en relation avec mon Père, parce que ça, vous ne le voyez pas. Mais croyez les œuvres. Autrement dit, n'est-ce pas, Jésus disait, ben, vous voyez un arbre, mes œuvres, vous voyez un arbre, ben, croyez qu'il y a des racines. C'est pas pour cet arbre. Vous devez croire qu'il y a des racines. Voilà la démonstration que Jésus faisait. L'union, en somme, ou l'unité de la foi et des œuvres, n'est-ce pas, c'est l'unité de la pensée intérieure et du faire, n'est-ce pas, et de l'action extérieure. C'est l'union de Dieu et de l'humanité en Jésus-Christ. Je viens vous le démontrer, c'est l'union de Dieu, n'est-ce pas, et de l'humanité en Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ était extérieurement un homme comme les autres, de même apparence que les autres, que ses contemporains, mais, n'est-ce pas, il y avait cette union entre lui et le Père est en moi et je suis dans le Père, n'est-ce pas, bon, il y avait cette union et cette union se manifestait, n'est-ce pas. Croire en Christ, donc, c'est vivre en Christ. Christ est venu sur la terre pour accomplir la rédemption, c'est vrai, mais maintenant, quand tout est accompli, il y a une page qui se tourne, il y a un changement, le tout est accompli. Ah bon, c'est fini, ça c'est fait, mais ça va projeter sur l'avenir toute une puissance, toute une réalité spirituelle. Mais alors, à ce moment-là, Christ est venu pour être vécu lui-même. Ben, Christ, maintenant, Christ glorifié, Christ donné à l'Église, c'est un Christ qui veut être vécu par ses disciples. Voilà ce qui est central, n'est-ce pas ? Alors, si vous avez ça, parlez-moi de dons spirituels, je me réjouirai avec vous, n'est-ce pas ? Mais quand on me parle de dons spirituels, et que je vois qu'il y a vraiment des déficiences terribles, du côté de l'amour, du côté de la mise en pratique de la parole de Christ, ben moi ça me délabre, moi je suis triste. Je ne vous parle pas souvent des dons spirituels, j'en ai parlé l'année dernière, les enseigner, parce qu'on les enseigne beaucoup, mais ce qui manque, c'est précisément ce que nous étudions maintenant, et c'est donc, n'est-ce pas, là qu'il faut maintenant faire porter notre effort. Nous allons maintenant donner quelques petites précisions sur ce verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors nous disons, n'est-ce pas, marcher comme il a marché lui-même, c'est vivre en Christ, c'est laisser vivre Christ, n'est-ce pas, vraiment, n'est-ce pas, Christ-Esprit, c'est lui qui devient la personne qui est en nous, n'est-ce pas, et qui s'exprime dans nos actes. Mais apportons quelques précisions, puisqu'il s'agit essentiellement de quelque chose d'ordre pratique. Marcher comme il a marché lui-même, cela consiste à s'emparer des pensées de bien, des mobiles qui étaient intérieurs, qui étaient les mobiles intérieurs de Christ, qui sont toujours ces mobiles, bien sûr, pour en faire les mobiles de nos actes, de nos paroles, de nos choix, de nos acceptations d'une chose ou de nos refus. Si, n'est-ce pas, je me trouve, la vie va faire affluer devant nous un tas de circonstances, petites ou grandes. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, soyez fidèles dans les petites choses, vous le serez dans les grandes. Ça, c'est vrai, hein, on ne peut pas dire autrement, dès qu'on commence à être infidèle dans les petites choses, on ne pourra pas l'être dans les grandes. Les circonstances sont diverses, elles arrivent devant nous, circonstances de la vie, et elles nous sollicitent, elles nous demandent une réponse. Enfin, il faut que nous répondions aux circonstances, pour ne pas leur échapper, pour ne pas dire, oh, moi je ne prends pas position, moi je m'en vais, oh non, moi je fais rien, oh. Ben non, ben alors, qu'est-ce que tu vas faire dans ton foyer, dans ton ménage, dans ton travail, tout ça? Quelqu'un va venir dans ton bureau et puis te dire, dites, je voudrais que vous fassiez ceci. Oui, est-ce que je vais le faire ou pas le faire? Si c'est un ordre et que cet ordre soit dans la ligne du travail que j'ai à effectuer, bon, c'est très bien, fasse d'une manière ou de l'autre. Mais si on vous dit, comme ça arrive quelquefois, dites donc, vous allez, vous savez, laisser croire que ceci, cela, n'est-ce pas, puis vous allez écrire autrement, etc. On vous demande de faire ça, vous allez le faire? Ah, voyez-vous comme il se pose des problèmes, des circonstances inattendues. Alors, vous allez vous dérober? Non, on ne peut pas se dérober. On est obligé de s'exprimer. Un chrétien va s'exprimer selon sa foi, n'est-ce pas? Dans toutes les circonstances, que ce soit les circonstances dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre intime personnel, il y a des circonstances qui sollicitent de nous une réponse, une attitude, une décision, pas un choix à faire. Eh bien là, n'est-ce pas, il faudra que ce soit le mobile de Christ, n'est-ce pas, qui nous guide. Autrement dit, n'est-ce pas, nous pourrions nous poser cette question, comment Jésus ferait-il s'il était à ma place maintenant? S'il était devant ce dilemme, maintenant, attention, il faut peut-être faire une petite digression là, parce que Christ ne se mettait jamais dans de mauvaises positions, et nous, ça nous arrive, ça. Hein, nous nous laissons coincer, n'est-ce pas, et puis nous nous laissons introduire, parce que par faiblesse ou par... nous avons consenti déjà quelque chose, alors, toc, on se trouve dans une mauvaise position. Comme Abraham, n'est-ce pas, quand on lui dit, mais dis donc, c'est ta sœur? Tu nous as dit que c'était ta sœur? Mais dis donc, c'est pas ta sœur, c'est ta femme, tu nous as menti. Il est coincé, hein. Voyez-vous, il arrive, n'est-ce pas, que l'on se fasse coincer ce qui n'arrivait pas à Christ. Christ ne se laissait pas prendre, coincé dans une mauvaise situation. Bon, mais écartons cela, si vous voulez. Malgré tout, n'est-ce pas, on peut se poser cette question, comment Jésus aurait-il fait à ma place? Qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait dit? Enfin, en admettant que ce soit une circonstance nouvelle, que je n'ai pas du tout, je n'ai pas provoqué moi-même, n'est-ce pas? Alors, qu'aurait-il fait? On peut dire aussi, voyons, je me trouve là dans une situation, que ferait Jésus, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire d'abord ceci, Jésus ne consulterait ni la chair ni le sang. Le Jésus ne consulterait pas la chair et le sang, et en général... C'est un peu ce que nous commençons par faire. Alors là, nous commençons à dévier, à nous séparer de la parole de Christ. Hein? Nous disons, ben voyons, quand même, il faut être raisonnable, il faut être sage, n'est-ce pas? Nous sommes dans le monde, il faudrait peut-être aller consulter un juriste, il faudrait peut-être mettre ça au tribunal, ou il faudrait peut-être tout de suite aller chercher le docteur, etc., etc., que sais-je, n'est-ce pas? Voyez-vous? Ou alors, il faudrait peut-être aller, n'est-ce pas, et puis faire un peu de potin, là, et puis montrer son autorité, n'est-ce pas? Enfin, nous consultons la chair et le sang. Chose qui, déjà, n'est-ce pas, n'est pas à faire. Ah, c'est la chose que le Seigneur ne fait pas. Et si j'y insiste, c'est parce que c'est assez dur, quelquefois, de s'en débarrasser de ça. N'est-ce pas? Le premier mouvement, c'est de consulter... notre sagesse, l'homme, la chair et le sang. Alors, s'abstraire de ça, mais consulter l'Esprit de Dieu. Christ n'était jamais à court d'une consultation et d'une réponse de Dieu. L'Esprit de Dieu lui inspirait sa conduite. N'est-ce pas? Il dit, moi je fais toujours la volonté de mon Père qui est dans les cieux, donc il la connaissait. Le Seigneur me montre les œuvres qu'il faut faire. Se trouve-t-il, par exemple, à l'entrée de Capernaum? Alors là, n'est-ce pas, avec Pierre. Alors, il y a un douanier qui est là, et puis qui dit, il dit à Pierre, s'adresse à Pierre, votre maître qui est là, il ne paie pas les 10 drachmes. N'est-ce pas, le petit octroi, il y a une espèce d'octroi, n'est-ce pas, ça n'existe plus, octroi, mais enfin, un petit impôt qu'il fallait payer à l'entrée de la ville. Et ce douanier, n'est-ce pas, nous savons très bien qu'il cherchait à percevoir le plus possible, parce qu'il avait un pourcentage dessus, n'est-ce pas. Alors, il dit ça à Pierre, n'est-ce pas? Et quand Pierre rapporte ça à Jésus, Jésus lui dit, eh bien, quels sont ceux qui sont assujettis aux tribus? Ce sont les fils, n'est-ce pas? Ou ce sont les étrangers? Alors Pierre lui dit, ce sont les étrangers. Bon, alors, les fils, c'est-à-dire les citoyens de Capernaum, en sont exempts. Ben oui. Bon, alors on aurait pu très bien, Jésus aurait pu dire à Pierre, écoute, tu vas aller dire à ce Ce fonctionnaire-là, tu vas aller lui dire que nous sommes citoyens de Capernaum, puisque Jésus habitait à Capernaum, nous sommes ses citoyens, et que par conséquent, nous n'avons pas à payer ça. Seulement, n'est-ce pas, Jésus pressent tout, voit tout, et il sait, étant donné que l'Esprit en lui, n'est-ce pas, est là pour lui apporter toute information sur la situation, même ce qui est caché dans une situation, il sait que le fonctionnaire en question est là un peu pressenti par d'autres pour essayer de faire un beau petit scandale, enfin, de faire du bruit, n'est-ce pas, et d'essayer de mettre à mal la prédication de Jésus qui disait, qui avait annoncé ceci: si quelqu'un veut te prendre une pièce de ton vêtement, ben tu lui donnes l'autre aussi, n'est-ce pas? S'il te prend une partie de ton vêtement, tu lui donnes l'autre. Et Jésus se serait trouvé à refuser, n'est-ce pas, les 10 drachmes, une petite tribu qu'il fallait payer, n'est-ce pas? Et il se serait trouvé en contradiction avec la parole qui avait été annoncée, qui était surtout vue, n'est-ce pas, dans son sens très littéral, n'est-ce pas? Si quelqu'un te demande une chose, bah, tu la lui donnes, et puis voilà, tu ne résistes pas, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut emprunter de toi, tu te laisses faire. Bah. Alors, ça n'allait pas. Et le Seigneur Jésus qui réalise tout ça, n'est-ce pas? Voyez-vous, dit à Pierre, je le dis, ça n'est pas dans l'Évangile, mais c'est implicite, n'est-ce pas? Tu as de l'argent dans ta poche? Non, non, j'en ai pas. Moi non plus. On n'a pas d'argent, on ne peut pas payer, n'est-ce pas ça? Bon, eh bien, cependant, n'est-ce pas, il faut leur donner ces 10 drachmes, n'est-ce pas? Il faut les leur donner pour éviter un scandale, pour le témoignage. C'est important. Les témoignages, c'est important. Bon, eh bien, on n'a rien, mais Dieu a des ressources. Alors, va, vite, cours au lac, là-bas, à la mer de Galilée. Jette ta ligne, hein? Et puis, le premier poisson que tu prendras, tu l'ouvres la bouche et tu vas trouver un stataire, juste ce qu'il faut pour toi et pour moi. Hein? Alors, l'Évangile ne nous dit plus rien, mais nous savons que Pierre y est allé, n'est-ce pas? Il a pêché, il a retiré un poisson, il a ouvert la bouche, il y avait la pièce de monnaie dedans. Il a porté ça au Seigneur Jésus, on est entré à Capernaum, on a remis ça, il n'y a pas eu de scandale. L'ennemi a été, n'est-ce pas, décontenancé. C'est l'ennemi qui a été décontenancé, n'est-ce pas? Et la parole a été vécue dans le témoignage. Vous voyez, ça, c'est une petite circonstance. N'est-ce pas? Une petite circonstance. Mais comme c'est délicat, comme c'est magnifique. Alors, nous disons, ben oui, peut-être pourrais-je faire ceci, faire cela, selon l'Évangile. Oui, ce serait peut-être bon. Mais je peux pas, vraiment je peux pas, j'ai pas les moyens. T'as pas les moyens? Mais s'il faut le faire pour le témoignage, il n'y a pas un Dieu qui pourvoit toute chose? Tu as oublié ça, qu'il y a un Dieu qui pourvoit. Tu as oublié la leçon du poisson, c'est tellement si extraordinaire. Pourquoi, en somme, Jésus a-t-il voulu faire ce miracle si extraordinaire? Il n'y en a pas d'aussi spectaculaire, si je veux dire, que celui-là, n'est-ce pas, d'aussi extraordinaire. Enfin, pêcher un poisson, puis dans ce poisson, il y a juste la pièce de monnaie qu'il faut, n'est-ce pas? Alors, et pourquoi l'a-t-il fait? Pour nous montrer que Dieu peut pourvoir, n'est-ce pas? Si nous avons souci du témoignage, si nous avons souci de marcher comme il a marché lui-même, de vivre, n'est-ce pas, vraiment la parole de Christ, de garder sa parole, n'est-ce pas, avec l'esprit, voyez, n'est-ce pas? Eh bien, alors, Dieu pourvoira à toute chose, n'est-ce pas, et nous donnera le moyen d'être fidèles. Même s'il s'agit d'un moyen matériel que nous ne connaissons pas, possédons pas, Dieu nous donnera ce moyen d'être fidèles. Et je connais, n'est-ce pas, des gens qui sont venus à la foi et qui ont voulu régler une situation antérieure à leur conversion qui était compromise, ils avaient un tas de dettes un peu partout, n'est-ce pas? Je ne dis pas que Dieu leur a subitement donné un compte en banque pour régler leurs dettes. Mais quand ils ont été humbles et qu'ils se sont attendus à Dieu, étant prêts eux-mêmes à faire tous les sacrifices, mes amis, tout leur est venu et ils ont pu être un témoignage. Ils ont réglé leur situation magnifiquement en peu de temps, n'est-ce pas? Dieu avait pourvu, hein, pour que sa parole soit vraiment accomplie. Ça, Dieu y tient par-dessus tout. Il y tient au-dessus de tout. Alors, chers amis, c'est ça n'est-ce pas, que nous devons mettre dans notre cœur avant tout. Il faut que je garde la parole de mon maître. Il faut que je marche comme il a marché lui-même. Amen.